Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors, le titre de mon message de ce matin, justement, s'intitule « Le but de la puissance ». Le but de la puissance. Vous savez que si on est pour persévérer dans quelque chose, si on est pour atteindre un objectif quelconque, bien, il va nous falloir un but, n'est-ce pas? C'est, par exemple, aux études, si les jeunes qui sont aux études présentement, en choix d'une carrière, quelque chose comme ça, s'ils n'ont pas un but, s'ils n'ont pas déterminé la carrière qu'ils veulent faire un jour, il y a des bonnes chances qu'ils vont lâcher, peut-être, ils vont se décourager en cours de route, puis ils vont abandonner leurs études. Mais s'ils ont un but, s'ils se disent, bien moi, mon but, je vais être une avocate, je vais être un médecin, je vais être un dentiste, on va travailler fort, on va s'acharner. Et puis même si il y a des difficultés en cours de route, vu qu'on a déterminé le but, ça va nous aider à persévérer. Mais vous savez que dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, c'est la même chose. Il nous faut déterminer un but. Par exemple, quelqu'un qui veut apprendre à prier. C'est quelqu'un qui voudrait apprendre à prier. C'est important la prière, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? On devrait tous apprendre à prier. Mais si on veut apprendre vraiment la prière, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir persévérer dans la prière. Ça ne sera pas de prier peut-être 5 minutes par mois qui va nous aider forcément à développer une vie de prière. Donc, on veut apprendre à prier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire probablement des bons livres sur la prière. On va aller à des réunions de prière aussi. On va se tenir avec des gens qui savent prier. Et puis, on va apprendre d'eux. On va demander aussi au Saint-Esprit de nous aider, de nous montrer, de nous enseigner comment prier. Puis, si on veut apprendre quelque chose, il faut qu'il y ait un but pour qu'on puisse persévérer. Et vous savez que Dieu nous a donné son plan. N'est-ce pas merveilleux que Dieu nous a donné un plan? Il aurait pu cacher toutes ces choses, tous ces mystères à nous. Et puis, on serait aujourd'hui dans le noir, on serait dans l'aveuglement, mais non, Dieu a un plan, et puis nous l'a révélé à travers des paroles de Jésus. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça, c'est dans Actes 1-8. Alors, on voit qu'il y avait un but. Il y avait les choses de Dieu. Dieu a toujours, il donne le plan, mais toujours avec un but aussi. Alors, on sait que quand les disciples ont suivi Jésus dans son ministère terrestre de 3 ans, ces disciples-là n'avaient pas encore été remplis du Saint-Esprit. Alors, il y a des choses qui ont commencé à prendre beaucoup d'espace dans leur vie, des choses qui ont commencé à les occuper beaucoup, peut-être trop même les préoccuper. Et puis, à cause de ces choses-là, bien, il est arrivé différentes choses qu'on va voir à suite de notre étude de ce matin. Et c'est la même chose avec nous. Si vous commencez à vous préoccuper d'autres choses, commencer à vous préoccuper des autres, par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Est-ce qu'une telle m'a parlé? Est-ce que l'autre m'a regardé? Et ainsi de suite. On se préoccupe tellement des autres. Qu'est-ce que les autres font dans l'église? Ah, celle-là a fait ci, l'autre fait ça. On se préoccupe tellement, on a tellement les yeux rivés sur les autres ou sur nous-mêmes qu'on va commencer à... Les choses les plus importantes vont diminuer à nos yeux. Alors, on va commencer à faire des erreurs si on fait ça. On va commencer à faire des gaffes, on va commencer à faire des erreurs. Et on va retrouver nos disciples aussi qui ont fait des erreurs. Les disciples ont fait des gaffes. Mais le Seigneur a pu passer par-dessus ces choses-là parce qu'on sert un Dieu qui est rempli d'amour, rempli de miséricorde et de grâce. Mais on voit que les disciples, à cause de des choses comme j'ai nommées, ont commencé à faire des erreurs. Dans Luc 9:46, une des erreurs qu'ils ont faites, on voit qu'il y a une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Imaginez-vous la rivalité qui a embarqué là. Ils ont commencé à se comparer probablement les uns aux autres, disaient, ben là, moi j'en fais plus que lui, je suis plus loin que cette personne-là, j'ai la parole plus facile que lui. Alors sûrement, là, qu'il y en a un de nous qui est plus grand que les autres. Seigneur, c'est quel qui est le plus grand? Ils ont commencé vraiment à se regarder, à se comparer, à se mesurer les uns les autres. Et puis, en fait, la déduction qu'il était sûrement plus grand que qu'est-ce que le maître avait dit. Et la deuxième gaffe qu'ils ont faite, ils ont fait une deuxième erreur qui est sérieuse aussi. Si on voit dans Marc 10 et le verset 37, on retrouve notre ami Jacques et Jean qui sont là, tous les deux, puis imaginez qu'ils font une demande au Seigneur. Imaginez-les qui arrivent tous les deux auprès du Seigneur. Faites le sourire affiché, là. Puis ils regardent le Seigneur, puis ils disent, « On a quelque chose à te demander, Seigneur. » Le Seigneur connaissait leurs pensées, vous savez. Alors, il dit, « Ben oui, qu'est-ce que c'est? C'est quoi que vous voulez? » Ils ont dit, « Ben, accorde-nous, leur dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Imaginez la demande. Il faut se prendre pour quelqu'un, n'est-ce pas? Ils ont l'audace de demander à Jésus, de demander au Maître, « Hey, là, écoute bien, là. On va te le demander. C'est peut-être un peu gênant, mais on va oser. On est tellement grand, là, puis on a tellement d'importance, là. Ça, c'est normal qu'il n'y aura un de nous à ta droite puis l'autre à ta gauche. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Accorde-nous, leur dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Alors, quand Jésus leur parlait de cette puissance-là qu'il voulait leur donner, c'est clair qu'ils n'avaient pas compris grand-chose, hein? Il voulait leur donner une puissance, mais eux n'avaient pas saisi le message. Ils n'avaient pas saisi le but de cette puissance-là qu'il voulait leur donner. Alors, ces fameux disciples-là se demandaient, ben, est-ce que c'est quand tu vas restaurer le règne politique d'Israël? Pour eux, puissance, ça équivaut de régner. Ça équivaut la politique. Waouh, ça vient établir un règne de puissance. Ouh, là, on va régner en roi comme on est supposé. On va la prendre notre place. On va brasser les affaires. On va changer Israël. La politique, ben oui, donc. Ils avaient compris, eux autres, que la puissance, c'était ça. C'était de restaurer le règne politique d'Israël. Ils s'imaginaient que cette puissance-là, c'était pour mener à l'ascension de leur peuple. C'était pour les placer dans une position d'autorité. Alors, là, ils avaient respecté Bretel, puis ils disaient, « Wow, parle-nous-en de la puissance, on veut savoir tout ce que tu as à nous dire, puissance. » Combien de gens sont comme ça aujourd'hui? Même dans les églises, on cherche les mêmes choses. On cherche d'être assis à la droite ou à la gauche. Ils cherchaient qui était le plus grand dans le royaume. Mais vous savez que nous, dans l'église, on peut chercher peut-être des choses un peu différentes de ça, mais ça mène quand même à la même conclusion. On peut chercher le prestige. Les gens sont à la recherche. L'autorité, ça c'est mon ministère. On va faire ça comme ça me tente. Hey, c'est moi qui mène ça, là. C'est mon affaire. Alors on cherche l'autorité d'être reconnu. Mais là, ça peut prétendre là, que quelqu'un le dise, là, qu'on fait ça bien, là, même si c'est bien fait. On cherche d'être reconnu. On cherche les premières places. On parle de l'Église, les chrétiens, les croyants sont souvent à la recherche de ces choses-là. C'est subtil, des fois, on ne le démontrera pas, on ne le dira pas verbalement, en parole, nécessairement, mais dans l'attitude. L'attitude peut manifester ces choses-là. Alors, vous savez que si on a une attitude comme ça, ça peut tuer n'importe quel mouvement de Dieu. Peu importe ce que Dieu veut faire dans l'Église, il veut faire un réveil, il veut accomplir des choses puissantes dans son Église. Si on a de telles attitudes, ça va amoindrir, abolir, sinon tuer le mouvement de Dieu. Alors, on revient à Jésus et ses disciples. Jésus savait la pensée de leur cœur, vous savez. Il savait très bien ce que ces gens-là pensaient. Alors, Jésus leur a répliqué aux disciples, il leur a dit, la chose, pas, il n'y en a pas mille, la chose qui comptait, c'est que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est ça qui comptait au Seigneur Jésus. Cette puissance-là, la puissance pour laquelle ils voulaient venir sur eux, leur donner une puissance, c'était pour qu'ils soient des témoins. Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'un témoin? C'est une bonne question, n'est-ce pas? C'est quoi un témoin? Mais c'est quelqu'un qui peut parler de Jésus dans le but de retourner à Dieu ce qu'il a perdu. Des fois, on va parler d'un témoin oculaire, hein? Il va arriver un accident, là. Les premiers témoins qui sont là sur scène, ils ont vu un peu, ben c'est la faute de qui? C'est-tu le bicycle qui est rentré dans l'auto? C'est-tu l'auto qui est rentré dans le bicycle? Et ainsi de suite. Bon, puis la personne à terre, la jambe cassée, puis tout défait. Puis là, les premiers témoins, oui, je l'ai vu, il n'a pas fait ça, stop! Il a manqué sa lumière. Alors, les policiers sont là, puis ils prennent des notes, puis ils se dépêchent. On interroge les témoins oculaires. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont arrivé sur la scène les premiers. Imaginez qu'il y a un hold-up dans un dépanneur, et puis... là, les premiers qui sont là, t'es à la caisse, puis là, le gars, il n'y aise pas avec ça, il se passe son pistolet, puis en vrai, donc, là, t'as le temps un peu peut-être de reconnaître, ben, OK, il mesure à peu près 6 pieds, là. Ah, il est bâti comme un armoire à glace. Ah, il y avait des jeans, là, t'as dit, non, il n'y avait pas des jeans. Non, il y avait un pantalon, puis il y avait une chemise dans le jeans, il y avait des sneakers, puis là, on commence à tout décrire. Ça va aider, justement, au policier d'y mettre la main au collet, puis de le ramasser. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des témoins oculaires, ils ont vu. Ils étaient là les premiers, ils ont vu ce qui s'est passé. Alors, ces disciples-là ont été les témoins de Jésus. Ils ont marché pendant 3 ans avec lui. Ils l'ont accompagné pendant son ministère terrestre. Alors, il était capable de dire, le maître d'ici, on l'a vu faire ça. Il y avait des aveugles, là, ça n'a pas de bon sens, aveugles de naissance. En tout cas, il y avait une foule, c'est épouvantable, ça a perte de vue. Puis là, Jésus, il est arrivé, puis il a fait une bonne prêche. Puis il a ouvert les yeux des aveugles. Ah oui, il y avait des boiteux, puis ainsi de suite, il y avait des témoins oculaires. Alors, ces gens-là étaient capables de parler. C'est ça, un témoin. C'est quelqu'un, mais nous aussi, nous sommes des témoins aujourd'hui parce qu'on a sa parole. On n'était pas là du temps physique de Jésus, mais il nous a laissé sa parole. On a tout le récit. Alors, on est capable, nous aussi, en lisant les Saintes Écritures, nous sommes témoins de qui est Jésus, de qu'est-ce qu'il a fait aussi, qu'est-ce qu'il a accompli. Alors, on dit qu'un témoin, c'est quelqu'un qui parle de Jésus dans le but de que Dieu puisse retrouver ce qu'il a perdu. Un témoin, c'est quelqu'un qui va apporter l'accomplissement du plan de Dieu, c'est-à-dire de rejoindre le monde, c'est-à-dire de rejoindre les gens qui sont sans Christ. Voilà les témoins que Dieu cherche aujourd'hui. Alors, si on comprend pas le but, voyez-vous le but, on parlait des buts au début. Ça rime. On parlait d'avoir un but, c'est important d'avoir un but, sinon on va perdre l'objectif pour lequel on est en train de travailler, soit aux études et ainsi de suite. Alors, si on ne comprend pas le but de la puissance de Dieu, parce que Dieu a donné sa puissance, mais c'est pour un but, c'est pas juste pour s'amuser avec, c'est pas quelque chose qu'on va faire des expériences, parfois s'il va mener des éclairs sur nous autres, parfois si on va voir un nuage, puis il va y avoir une brune qui va se promener dans la place, puis là on va trembler, puis bang à terre, puis on va se relever, wouhou, on tremble, là. La puissance de Dieu, il y a un but pour lequel il l'a donné. Alors, il faut connaître la puissance de Dieu, et il faut connaître aussi la raison de la connaissance. Parce que nous savons le droit d'acquérir de la connaissance tant qu'on voudra. On pourrait citer la Genèse de l'Apocalypse. Donc, on ne comprend toujours pas le but de la puissance et le but de la connaissance qu'on apprend. Le but de la connaissance qu'on a on acquis, ça va nous servir à rien finalement. Et on ne sera jamais épanoui en tant que chrétien. Vous allez toujours être frustré, vous allez toujours dire, pourtant j'ai déjà goûté à la présence de Dieu, j'ai déjà goûté à sa puissance. J'ai plein de connaissances aussi, j'ai des beaux versets dans mon cœur, je suis capable de transmettre des choses, ainsi de suite, mais vous ne serez jamais épanoui si vous n'avez pas compris la raison pour laquelle la connaissance nous est donnée, pour reproduire quelque chose. Il y a un but, on apprend pour reproduire, on apprend pour donner à d'autres, on apprend pour instruire d'autres avec les connaissances que nous avons. Alors, sans ces choses-là, vous allez toujours, avec le temps, vous allez vous décourager, vous allez vous fatiguer. Et puis, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'on va d'une église à l'autre. On n'est pas content. On se dit, bon, là, mon église, il ne se passe pas grand-chose, là. À tous les dimanches, il n'y a pas quelqu'un qui tombe à terre sur la puissance. Il n'y a pas eu de nuage, là, qui est rentré. On n'a pas senti, on n'a pas tremblé, puis il n'y a pas d'éclat. On va aller checker ça ailleurs, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis là, on se promène d'une église à l'autre. Puis là, on trimballe des histoires, puis ainsi de suite. Alors, c'est pas bon, ça. Alors, on va soit se fatiguer ou abandonner, ou on va être à la recherche. Les chrétiens sont à la recherche de quelque chose, à moins qu'on a vraiment saisi le but de la puissance, le but de la connaissance pour lequel on apprend des choses, on va être un peu des chrétiens errants. Ça arrive à plein de gens partout dans le monde aujourd'hui, soit qui délaissent l'Église complètement, ou soit qui sont jamais contents. Ils se promènent d'une Église à l'autre, puis ils sont jamais satisfaits de ce qu'ils voient. Rien d'autre n'avait plus d'importance pour les disciples après qu'ils eurent été baptisés du Saint-Esprit. Ça, quand ils ont demandé là, qui était le plus grand d'entre eux, qui était pour s'asseoir à la droite et à la gauche, et ainsi de suite, avec un beau sourire, il n'était pas rempli du Saint-Esprit, là. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Il n'avait pas compris ce que le Maître était en train de dire. Mais dès qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, il n'y avait plus rien de plus important pour eux. Alors, en autant qu'il n'y avait rien d'autre qui comptait pour eux, il n'y avait rien qui pouvait les arrêter, n'est-ce pas? Si on a fixé notre but, on a compris notre objectif, il n'y a rien qui peut nous arrêter. ni l'ennemi, ni les ruses de l'ennemi, peu importe, il n'y a rien qui peut nous arrêter. On pourrait se poser la question, avons-nous aujourd'hui un Saint-Esprit qui est semblable à eux à l'époque? On a-tu un Saint-Esprit qui est aussi fort aujourd'hui, ou si on a juste peut-être, moi je dirais qu'on a le même Saint-Esprit, n'est-ce pas, parce que le Saint-Esprit, il n'y en a qu'un. Alors, qu'est-ce qu'il accomplissait dans le temps des apôtres, dans le temps des disciples? Il est bel et bien capable de le faire encore aujourd'hui. Vous savez que quand le Saint-Esprit se met de pair avec un vase qui est voulant, avec un vase qui est habile dans la parole de Dieu, ensemble comme des bœufs, vous savez, on va lier des bœufs ensemble avec un joug. Dans le temps passé, il n'y avait pas tous les belles équipements de ferme comme on a aujourd'hui, Ferguson et ainsi de suite. S'il y a des cultivateurs ici, ils savent peut-être les noms de grandes machineries, ça déchire, ça arrache, ça fait tous les temps, ça bouleverse la terre et ainsi de suite. Mais à l'époque, on mettait des bœufs ensemble avec un joug. Et puis, pourvu que les bœufs étaient liés ensemble, ils allaient dans la même direction, ils tiraient à peu près n'importe quoi. Des chevaux, la même chose. On les liait ensemble, on les attachait ensemble, on mettait un joug à leur cou. Et puis, ils étaient capables de tirer presque n'importe quoi. C'est ça que les premiers chrétiens avaient. Des fois, on se demande, qu'est-ce qu'il y avait ces premiers chrétiens-là qu'on n'a pas aujourd'hui? C'est quoi qui nous manque aujourd'hui dans l'Église? On lit ça dans les Évangiles, puis on dirait qu'il se passait des choses à tour de bras, à tous les coins de rue, il y avait un miracle, il y en avait un de ressuscité, puis envoyé donc. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Mais ces premiers chrétiens-là avaient compris le but de la puissance. Ils avaient compris le pourquoi ils acquéraient de la connaissance. Ils travaillaient de pair avec le Saint-Esprit. Voilà le secret. Ils travaillaient de pair avec le Saint-Esprit, comme nos bœufs ou comme nos chevaux, qui sont liés ensemble avec un joug. Ils s'en allent dans la même direction. Ils tirent le même poids. Il y a une égalité. Nous, la même chose, quand on est prêt à travailler avec le Saint-Esprit, il va se passer de grandes choses. On n'a pas un plus petit Saint-Esprit aujourd'hui. C'est le même. Il est aussi fort qu'à l'époque des disciples, à l'époque de Jésus, quand il faisait son ministère terrestre. On sait que les disciples ressuscitaient les morts. Ils chassaient les démons. Puis aujourd'hui, bien, pour la plupart d'entre nous, on ne fait que parler de ces choses-là. Il faut retourner aux Évangiles, puis on dit, mais as-tu vu ça? Jésus au tombeau, il a ressuscité Lazare. Puis une telle place, il y en a un qui a été guéri. Puis une telle autre place, il y en a un qui, celui qui se garochait dans le feu, le Père l'a emmené. Puis, bon, Jésus a chassé le mauvais esprit de ce jeune homme-là. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est juste des récits. Tout ce qu'on peut faire, c'est retourner aux Écritures, retourner aux Évangiles, s'exciter et s'énerver de regarder les miracles. Mais on en voit très peu prendre place, malheureusement. Alors, on sait que ces choses-là se passent dans d'autres nations, pourtant. Dans d'autres nations du monde, on sait que Dieu se manifeste avec de grands miracles. Dieu ressuscite les morts. Dieu guérit les lépreux. Il chasse les démons. Sa puissance n'est pas limitée. Sa puissance n'est pas arrêtée non plus. Alors, il se passe de grandes choses comme ça dans d'autres nations. Vous savez que ça devrait se produire de plus en plus en Amérique du Nord. Combien de vous, combien de nous avons faim et soif de voir la main de Dieu, de voir des miracles, de voir les mêmes choses qui se passaient dans le temps des disciples se passer aujourd'hui dans notre place, dans notre Amérique du Nord, au Canada, au Québec et ainsi de suite. Je lisais récemment, parce que j'ai reçu une lettre de nouvelles de l'équipe avec laquelle je vais aller au Pérou bientôt, et puis je lisais, mais gloire à Dieu qu'il s'en produit aussi des miracles, là. Même aux États-Unis, il s'en produit en Amérique du Nord. Il devrait s'en produire davantage, et il va s'en produire davantage, pourvu qu'on comprend le but, pourvu qu'on comprend la puissance, pourquoi nous avons la puissance, et qu'on comprend pourquoi nous acquérons de la connaissance, les mêmes choses vont se passer. Alors, je lisais qu'il y avait un garçon, c'est dans un état de l'Indiana, et puis le garçon était sourd d'une oreille, je crois que c'est son oreille gauche, et puis les médecins ont dit que jamais il pourrait entendre de cette oreille-là parce qu'il manquait même des organes dans l'oreille, probablement que le tympan n'était pas là, quelque chose comme ça. Alors, ils ont prié pour lui, l'évangéliste a prié pour lui, et le Seigneur en a créé. Lui, il n'y a pas de problème. S'il en manque des morceaux, il en a de faire. Il regarde ça, il dit, il n'y a pas de tympan. Là, c'est un peu, je vais m'en faire un tympan, mais il n'y a pas de problème. Alors, il a mis le tympan, puis le petit garçon, il entend très bien. Et il y avait une dame aussi en Californie, c'est quand même pas si loin d'ici, là, on parle pas de l'Afrique, puis on parle pas de la Tunisie, et ainsi de suite. La Californie, il y avait une dame qui avait un cancer du sein. Et puis elle a pris beaucoup de chimiothérapie, ils ont brûlé, et ainsi de suite. Et puis là, les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour elle. Ils l'ont renvoyée à la maison avec pas d'espoir du tout. Elle ne pouvait pas vivre comme ça. La gangrène s'est mise dans le sein. Et puis c'est après tout détérioré les tissus, et ainsi de suite. Alors encore, l'évangéliste a prié pour elle, imposé ses mains sur elle. Et puis, à son retour à la maison, elle a constaté que le cancer est tombé, littéralement, de son sein. La gangrène, tout est guéri. La chair, c'est tout refait, là, comme vraiment de la chair de bébé. Alors, le Seigneur est à l'œuvre. Il fait de grandes choses. Mais il fait des choses pour ceux qui ont compris le but de la puissance. Il ne fera pas ça avec n'importe qui. Il va faire ça avec ceux qui ont compris le but de la puissance. Puis, pourquoi nous avons de connaissances? Pourquoi vous apprenez ces choses-là? Pour les transmettre à d'autres. Pour les mettre en pratique vous-même dans le but de les transmettre à d'autres aussi. Il faut comprendre que l'évangélisation et la puissance de Dieu doivent sortir hors de l'Église. C'est ça la clé. Ça doit sortir hors de l'Église. Aujourd'hui, les gens pensent que bon, il faut venir à l'Église pour trouver la puissance de Dieu. Ah, si je peux arriver à dimanche matin, là, si on peut arriver au culte, puis ainsi de suite, puis là, on va louer le Seigneur pour avoir une bonne prêche. Là, wouhou, là, je vais goûter la puissance de Dieu. Je vais s'en passer des affaires. Oui, il peut s'en passer des choses. Mais il faut que l'Église sorte hors de ses murs. Il faut que l'Église sorte hors des quatre murs. Et puis, c'est là qu'il va se passer des choses. On sait que la puissance de Dieu, dans le temps des apôtres, elle se trouvait pas simplement à l'Église, c'était presque même pas à l'Église qu'elle se passait. Il se passait des choses, oui, à l'Église, mais la puissance de Dieu était presque toujours à l'œuvre en dehors de l'Église. C'est ça qui est la clé. C'est ça qui est la clé. On est ici, on se rassemble ensemble pour s'édifier, pour se bâtir, pour être nourri, mais afin de devenir quelque chose, afin de devenir quelqu'un qui va être utile, des témoins. On a parlé d'être des témoins tout à l'heure. Alors, pour être témoin, ça va être mal dit d'être témoin les uns entre nous, parce qu'on sait déjà tout, on a juste à tourner dans les évangiles, puis on connaît ce que le Seigneur a fait, ça nous parle, ça nous révèle tous les récits. Alors, si on est pour témoigner, forcément, on va témoigner à ceux qui ne savent pas l'histoire. Parce que là, ça donne pas grand-chose de raconter ça entre nous, quand même Dieu puissant, qu'est-ce qu'il a fait, et ainsi de suite. Il va falloir aller hors de l'Église et témoigner de ces choses-là. Alors, les disciples, c'était dans les rues. On les trouvait dans les rues, on les trouvait dans les places publiques, on les trouvait au puits. On les trouvait partout où il y avait des gens, partout où il y avait des besoins. C'était pas seulement qu'à l'Église que la puissance de Dieu se manifestait. Là, vous allez dire, peut-être pour quelques-uns, je ne sais pas, je ne vous connais pas, je ne porte pas jugement non plus, mais il y en a peut-être qui ont, ou vous avez entendu des gens dire ça. Bon, enfin, ça c'est une prêche qui va faire mon affaire un matin. Je le savais que j'avais pas besoin d'aller à l'église. Je le savais que j'avais pas besoin de faire ça. J'ai une télévision, j'ai la radio, je peux cliquer le matin, là, on a le câble, hein? Pour la plupart de vous, vous avez le câble, puis là, on peut trouver, puis on pitonne, puis on cherche toutes les postes, puis on voit donc, puis là, on trouve un évangéliste, puis on trouve un enseignant. On dit, oh, moi puis Dieu, on est des bons amis, on a une bonne affaire ensemble. Je n'ai pas besoin de m'assembler dans une église locale, puis elle m'appelle, elle prêche. Wow, c'est le fun. Attendez un petit peu, là, c'est important de faire partie d'une bonne église remplie du Saint-Esprit. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être dans l'église pour être utilisé de Dieu. C'est différent. Il faut faire partie d'une bonne église locale, mais on n'est pas obligé d'attendre d'être à l'église pour être utilisé de Dieu. C'est à l'extérieur, c'est là qu'on va être les témoins, c'est là qu'il va se passer les choses. Peut-être pas au puits ici, parce qu'on n'a pas de puits, à moins qu'on a des puits artésiens. Les gens vont creuser un puits. Mais à moins de ça, ça peut être le long de la rivière. Ça va être dans les parcs, ça va être dans la cour d'école, ça va être au marché, ça va être partout. Mais la puissance de Dieu va se manifester hors de l'église. Il faut qu'on sorte d'ici. Il faut qu'on sorte des quatre murs si on veut aller évangéliser. Ça, c'est mal dit d'évangéliser des gens qui connaissent déjà le Seigneur. On radote le même message, puis on n'aura pas beaucoup d'impact sur les uns sur les autres. Alors, c'est important d'être dans une bonne église locale, mais on n'est pas obligé d'être dans l'église, c'est-à-dire physiquement, pour que Dieu nous utilise, non. Pourquoi? Parce que sa puissance, elle est en vous. Dites, sa puissance est en moi. Amen. Vous êtes l'espérance de la gloire. Vous êtes l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, quand tu n'as rien d'autre qui va être important pour nous de plus que pour les disciples, quand on va comprendre le but de la puissance, pourquoi Dieu m'a donné sa grande puissance, pourquoi Dieu me permet d'être dans une bonne église locale pour apprendre plein de choses, plein de connaissances, quand il n'y aura rien d'autre pour nous qui va avoir plus d'importance que de gagner des âmes, on va faire comme les premiers disciples. On va faire comme les apôtres, puis on va gagner des âmes, puis on va voir le miraculeux de Dieu. C'est pourtant tellement important d'être sous le ministère d'un bon pasteur, un bon pasteur qui est engagé. C'est tellement important parce que pourquoi? Il peut vous enseigner, il va vous aider à comprendre des choses. Mais tant aussi longtemps que la révélation ne s'est pas faite en vous, que vous êtes le corps de Christ. Dites, je suis le corps de Christ. Que vous êtes les disciples de Christ. Dites, je suis le disciple de Christ. Amen. Donc, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les disciples de Christ relâchés dans le monde. Il ne nous a pas dit, ben là, c'est pour vous réunir ensemble, c'est pour faire des petits caucus, là, c'est pour vraiment là, barrer les portes, baisser les toiles, là, puis là, c'est en vous autres que ça se passe, là. Vous savez, vous allez vous édifier en vous autres, là, puis vous allez... Ça, c'est tout important, ces choses. On ne dénigre pas l'importance de se rassembler, l'importance de louer, l'importance d'être sous le ministère d'un bon pasteur qui est loin, qui est bien engagé, qui va nous diriger, qui va nous donner instruction. Mais tant et aussi longtemps que la révélation n'est pas dans vos cœurs, que vous êtes le corps de Christ, que vous êtes un disciple de Jésus, il ne se passera pas grand-chose. Alors, quand vous allez réaliser ces choses-là, vous allez vous regarder et vous allez dire, ben, vous allez comprendre que ce que vous êtes, c'est ce que Dieu a pour travailler avec. C'est pas compliqué, hein? On va se regarder et on va dire, c'est l'œuvre de Dieu pour s'accomplir. C'est pour avoir un réveil. C'est pour avoir des âmes de gagner. C'est pour avoir des choses d'accomplir avant son retour. Je suis la personne. C'est moi. Je suis l'instrument. Je suis la personne par où la puissance va passer. Je suis ce que Dieu a pour travailler avec. Éliminez l'Église. Éliminez-vous, il n'y a plus rien. Dieu n'a plus rien pour travailler avec. Ça n'enlève pas sa puissance à Dieu. Ça n'enlève pas sa souveraineté. Mais Dieu a un plan. On l'a vu au début. Dieu a un plan, puis il l'a révélé à son Église. Il nous l'a donné à nous. Le plan, c'est que nous soyons des témoins. Alors, on ne peut pas être des témoins renfermés ici, entre nous. Alors, quand on va comprendre ça, quand l'Église va comprendre que je suis le corps de Christ, je suis un témoin relâché dans le monde avec la puissance de Dieu qui est en moi pour rejoindre les perdus, parce que Dieu a donné à l'Église le mandat. C'est à l'Église. Il ne l'a pas donné à aucun autre. Il n'a pas donné son mandat à ceux qui sont perdus. Il n'a pas donné ses instructions à ceux qui ne le connaissent pas. Il a donné son mandat à nous, l'Église, de rejoindre les perdus. Vous savez qu'il aurait pu, si on y pense comme faut, Dieu aurait pu donner cette grande responsabilité-là aux anges. C'est vrai qu'il aurait pu donner ça aux anges. Parce que les anges qui n'ont pas suivi Lucifer, les anges qui n'ont pas été déchus, ils n'ont jamais désobéi au Seigneur, sont à son service. La moindre ordre que Dieu leur donne sont au service. Ils obéissent immédiatement. Il aurait pu donner ce mandat-là aux anges. Vous allez aller évangéliser tous les perdus. Non. Il a donné cette responsabilité à nous l'Église. C'est un privilège. C'est une grande responsabilité aussi. C'est un privilège dans le sens que si on tient compte que nous, les êtres humains, on l'a manqué plus qu'une fois. On l'a manqué la coche. Très souvent, Dieu nous a parlé. Très souvent, Dieu nous a dit des choses. Il nous a demandé de faire des choses. Avons-nous toujours été obéissants? Avons-nous toujours été au diapason d'esprit? Avons-nous toujours accompli à la perfection ce que Dieu demande? Non, moi la première. Alors, saisissons l'importance et le privilège d'être utilisé par Dieu. Parce qu'il aurait pu se tourner de bord et dire, vous autres, là, vous êtes trop déchus. Depuis le début que je vous ai créé, je vous ai mis dans un beau jardin où il n'y avait pas de maladie, où c'était à la perfection. Puis à partir de là, imaginez, vous n'avez rien là pour vous plaindre, puis vous avez réussi à manquer la coche. Vous avez réussi à me désobéir concernant un seul arbre que je vous ai dit de ne pas toucher. Il y en avait plein d'autres, vous auriez pu manger de tout ce qu'il y avait là, jouir de tout ce qu'il y avait. Mais un seul arbre, je vous ai dit de ne pas toucher, de ne pas en manger, puis vous avez désobéi. Là, c'est assez avec vous autres. J'ai des anges par myriades, c'est eux autres qui vont aller vers les perdus. Non. Le Seigneur nous aime. Il nous fait confiance. Il nous a mandatés. Il vous a mandatés avec le mandat d'aller vers ceux qui sont perdus, même si on a manqué très souvent la coche. Vous savez que quand un cœur est vraiment donné, quand un cœur est vraiment consacré, puis quand la puissance du Saint-Esprit habite en nous et que plus rien d'autre ne compte. Ça, c'est une clé aussi. Parce qu'on a beau avoir la puissance en nous, on a beau avoir plein de révélations, on a beau avoir plein de connaissances. Si les autres choses de notre vie comptent plus que d'aller vers les âmes perdues, on va faire comme les disciples, on va commencer à se demander, puis comme on a vu au début, ils ont demandé qui était le plus grand, et ainsi de suite, qui allait s'asseoir à sa droite, à sa gauche. Nous, entre nous, on va se regarder, on va se comparer, on va se juger, on va faire toutes les choses qu'on n'est pas supposé de faire, sauf celles qu'on devrait faire. Avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, avoir les yeux fixés sur le but de la puissance. Il m'a donné sa puissance afin que je puisse gagner des âmes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est ça qui compte pour le Seigneur. Le reste, c'est secondaire pour lui. Les belles bâtisses, les beaux programmes, on n'est pas contre ça. Ça en prend de ces choses-là. Mais c'est tout secondaire pour lui. La chose qui compte, c'est est-ce que vous êtes mon témoin? T'es-tu mon témoin? Es-tu capable d'aller ce que j'ai fait pour toi? Es-tu capable d'aller dire que j'ai versé mon sang, que j'ai donné mon Fils unique, que je l'ai donné en rançon pour tous? C'est ça qui est la chose la plus importante. Alors, si on veut faire comme les apôtres, si on veut avoir l'hardiesse des apôtres, des disciples, il va falloir regarder nos priorités. Il va falloir être à l'écoute de l'Esprit. Il va falloir comprendre que la chose la plus importante, c'est la puissance qu'il nous a donnée. Parce que sans cette puissance-là, on n'est pas capable d'accomplir quoi que ce soit. Sans la puissance de Dieu qui est en nous, on est vraiment comme des cymbales qui retentissent. Ça fait un son, mais on n'est pas capable de discerner clairement. Alors, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il nous a donné cette puissance-là pour le but d'être ses témoins. Il y a d'autres, pour nous qui avons le baptême du Saint-Esprit, par exemple, il y a des bénéfices à ça. Oui, on se bâtit, oui, on s'édifie, et ça nous aide à vivre une vie surnaturelle. Mais la première raison de la puissance, c'est d'être ses témoins. C'est pour comprendre l'importance d'être son témoin. Vous êtes ce qu'il a pour travailler avec. Alors, si on dit non, on ferme la porte. Si on met des choses plus importantes devant le grand mandat, on va manquer la coche aussi, puis on va commencer à être une église qui est introvertie. On va se tourner vers soi-même, puis on va, soit qu'on va, nos problèmes vont prendre toute la place, ou on va devenir introverti dans le sens qu'on est bien ensemble. On est content d'être en famille, n'est-ce pas? On se comprend les uns les autres, on prie les uns pour les autres. Ça, c'est tout bien. Mais vous savez qu'il y a dû avoir de la persécution dans le corps de Christ pour que les disciples puissent être relâchés. Ils étaient bien ensemble. Ils n'étaient pas pressés là, de quitter. On ne parle pas ici qu'on va avoir forcément de la persécution. On n'invite pas ça non plus. Puis on devrait se réveiller. Puis on devrait se disperser avant qu'il y ait de la persécution. On devrait prendre le mandat à cœur. On devrait aller avec la puissance que Dieu nous a donnée. Alors, avec cette hardiesse-là que les disciples avaient, en comprenant le mandat, en comprenant le but de la puissance et la raison de la connaissance, on va être capable de faire comme eux, puis on va être capable de tourner, de virer le monde bout pour bout avec l'évangélisation. Ça devrait faire partie de nos priorités. On ne dit pas que les autres choses ne sont pas importantes, mais je dirais qu'ils le sont moindres. Parce que tout ce qui se fait dans l'Église, tout ce qu'on apprend, c'est le but pour qu'on soit des témoins. Le Seigneur, quand il a repris ses disciples, il leur a dit la chose. Écoutez, là, réveillez-vous, là, il a dit en d'autres mots, arrêtez de vous disputer entre vous, arrêtez de mettre des priorités. Moi, je vous dis, je suis Jésus, je suis le Maître, et je vous dis que la chose la plus importante, c'est que vous recevrez cette puissance-là. Je vais vous la donner. Ça ne sera pas par vos forces à vous. Ça ne sera pas par le bras de la chair et tout, mais juste cette force-là, cette puissance-là, et vous serez mes témoins. Alors, je vais plaire au Seigneur ce matin, si on veut accomplir le mandat de l'Église, sachant que nous sommes ce qu'il a pour travailler avec. Nous sommes ce qu'il a pour travailler avec. Dieu est limité, si on veut, à nous. Il est pourtant tout puissant, mais il est limité, pour ainsi dire, à nous, l'Église. Il est limité à nous, ses enfants, nous, ses disciples. Alors, on devrait dire, oui, Seigneur, me voici, prends-moi, utilise-moi, envoie-moi, afin que le nom de Jésus soit élevé dans les nations. Le retour du Seigneur est pour bientôt. Il faut prendre au sérieux le mandat, parce que le Seigneur s'en vient bientôt. On n'a pas des années, peut-être, et des années qui nous restent. Et la chose que le Seigneur va nous demander, qu'est-ce que tu as fait du nom de Jésus? Est-ce que tu as pris mon nom précieux? Est-ce que tu l'as fait connaître? Est-ce que tu es allé vers ceux qui ne connaissaient pas? Est-ce que tu avais un intérêt? Est-ce qu'il n'y avait rien d'autre qui comptait pour toi que gagner des âmes? Dieu veut une grande moisson. Le Père veut une grande moisson. Il a envoyé son Fils mourir dans ce but-là pour avoir une grande moisson, pour avoir une église qui va être un jour à ses pieds. On va avoir des trésors à mettre devant lui. Ça va être des âmes précieuses. Vous savez que même si on gagnerait l'univers entier, ça a peu d'importance à comparer à une seule âme qui était perdue et qui est sauvée. Alors c'est à nous. C'est à nous de se réveiller. C'est à nous de se secouer. C'est à nous de prendre le mandat à chaque occasion que Dieu met sur notre route. De ne pas craindre, de ne pas avoir peur, de ne pas être timide. De dire, mais là, ils vont peut-être rire de moi. Je ne sais pas trop comment je vais me prendre. La puissance est en vous. On l'a dit tout à l'heure. La puissance est en moi. Je suis le témoin. Je suis un disciple du Christ. Alors il va vous donner les paroles au moment. Tout ce qu'il recherche, ce sont des vases qui sont consacrés. Un vase qui est voulant. Un vase qui est voulant de prendre le défi, de relever ce grand défi-là et d'aller vers la moisson, d'aller vers ceux qui sont perdus. Alors, je vais vous demander de vous lever. On va demander à l'équipe de louange de venir, s'il vous plaît, nous faire de une belle musique douce. Et puis, on va laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia. Dans une attitude de révérence. Je vais vous demander de fermer vos yeux, de laisser le Saint-Esprit sonder votre cœur ce matin par le message. Est-ce qu'on répond oui ce matin au Seigneur? Est-ce qu'on dit oui, Seigneur, je suis ce que tu as pour travailler avec. Je veux être le vase, l'instrument le plus propre que tu peux savoir pour travailler avec. Vidé de moi-même, vidé de mon égoïsme, vidé de mes désirs propres, vidé de tout ce qui n'est pas de toi, je me laisse remplir par cette puissance d'en haut, afin que je sois ce vase, Seigneur, un vase d'honneur à ta gloire. Sonde nos cœurs ce matin, Esprit Saint. Nous voulons, Seigneur, accomplir ta volonté. Nous voulons aller, Seigneur, avec le grand mandat vers ceux qui sont perdus, vers ceux qui ne t'appartiennent pas aujourd'hui. Des gens aujourd'hui, Seigneur, par milliers, des nations, Seigneur, de toutes tribus, même ici à Drummondville, des gens qui ne te connaissent pas encore. Alors, on veut, Seigneur, que tu nous utilises. On dit oui, Seigneur, à toi. Que tu puisses nous prendre, Seigneur Dieu. Que tu puisses nous former à ta gloire. On comprend le but de la puissance que tu nous as donnée, Seigneur. C'est pour être des témoins. On comprend que, Seigneur, la connaissance que tu nous donnes, la connaissance que nous acquérons, Seigneur, à travers de ta parole, à travers des bons enseignements, le privilège d'avoir une bonne église locale, Seigneur, des frères, des sœurs, des bons pasteurs, sont loin de toi. Tout ça, c'est pour le but culminant, Seigneur, d'aller vers ceux qui ne te connaissent pas. Oh, que ton mandat puisse brûler dans nos cœurs ce matin, Seigneur Dieu. Et nous disons oui, Seigneur. Moi, voici, prends-moi, utilise-moi la gloire de ton nom pour l'avancement de ton royaume dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et comme on fait tous les dimanches matins, on fait un appel. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, la première place à travailler, si vous voulez. On ne peut pas être un témoin de celui qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être un témoin de quelqu'un à qui on n'appartient pas. Parce que quelqu'un ici ce matin qui dirait, ça me semble tout bien logique, ces choses-là. J'aimerais ça, moi aussi, être rempli de cette puissance-là. J'aimerais ça, moi aussi, mais je ne suis même pas certaine ou certaine que je le connais, Seigneur Jésus. Je ne suis pas certaine que si je mourais aujourd'hui, que je suis en paix avec lui. Avec tous les yeux fermés, je vous demande, s'il y a quelqu'un ici ce matin comme ça, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Je ne dis pas connaître à propos. On peut connaître à propos de Jésus, mais ça ne veut pas dire qu'on le connaît de façon personnelle. Le connaître de façon personnelle, c'est d'avoir fait la paix avec lui. C'est de s'avoir réconcilié à lui. Il s'est réconcilié par le sang qui a versé. Nous étions autrefois éloignés, mais par le sang versé, nous avons été réconciliés à lui, rapprochés de lui. Alors, c'est quelqu'un comme ça ce matin qui n'est pas certain. Si on n'est pas certain, c'est parce qu'on n'est pas né de nouveau. Parce que le Saint-Esprit, quand on est né de nouveau, témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas certain, les bonnes promesses, il y a des bonnes chances que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Alors, je vous demande de lever votre main ce matin. Si vous n'êtes pas certain, c'est votre matin, c'est votre opportunité ce matin de ne pas partir d'ici sans le connaître, sans avoir fait la paix avec lui, sans vous être réconcilié par le sang de Jésus. Parce que quelqu'un, levez votre main, s'il vous plaît, on va prier pour vous. Si, Seigneur Dieu, une autre personne, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vais demander à ces gens-là qui ont levé la main, vous pouvez baisser la main, je l'ai vu. On va demander à ces personnes-là qui avaient levé la main ce matin de fermer vos yeux. Et puis, je vais prier. L'Église, allez répéter une prière aussi. Mais il faut que ça soit sincère dans votre cœur. Parce que vous savez, on peut répéter des prières, on peut se promener d'une église à l'autre, qu'on peut répéter une prière qui jamais va nous donner la paix avec Dieu, qui jamais va nous donner l'assurance. Parce que la parole de Dieu dit qu'il faut croire dans le cœur et confesser de la bouche. Celui qui croit dans le cœur et qui confesse de la bouche a la vie éternelle. Alors, on va prier cette prière-là pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui ont levé leur main ce matin pour recevoir le Seigneur Jésus. Alors, fermez vos yeux, puis de tout votre cœur, le Seigneur est ici présent. Il entend votre cri. Il entend votre vouloir de lui appartenir. Père éternel, répétez après moi, surtout ceux qui ont levé leur main, mais toute l'Église ensemble, mais surtout vous deux qui avez levé la main. Père éternel, je viens à toi dans le nom de Jésus. Je te remercie, Jésus, d'être mort à la croix du calvaire pour moi. Je te remercie parce que tu as versé ton sang précieux pour me sauver de mes péchés. Ce matin, Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche qu'à partir de ce matin, tu es mon Seigneur et Sauveur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Et je m'engage d'être un témoin fidèle pour toi. Merci, Père, d'avoir ressuscité Jésus le troisième jour pour ma justification. Alléluia. Alors maintenant, je suis passée des ténèbres à la lumière. Je suis passé de la mort à la vie. Maintenant, tu es mon Père et je suis ton enfant. Et je te rends gloire pour ma nouvelle naissance. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière-là sincèrement de votre cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu faire un miracle en vous ce matin. Il est venu prendre place en vous ce matin. Il est venu donner vie à ce qui était mort. Votre esprit autrefois était mort, était inimitié contre les choses de Dieu. Mais maintenant, vous avez la vie de Dieu en vous. Vous avez la nature de vie de sa vie en vous. Alors, remerciez le Seigneur.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.